qui, je pense, ont beaucoup de choses à dire. On va commencer par celle qui est juste en face de moi. Donc, bonjour, ma sœur.
Bonjour.
Alors, il faudra peut-être baisser ton micro à ton niveau, parce que je vois que tu fais des efforts pour... Non, non, tu peux baisser carrément. Donc, ceci, voilà, ça se coupe comme ça, voilà. Alors, ton prénom, c'est comment?
Marie-Christine.
Marie-Christine. Marie-Christine, comment?
Marie-Christine Souclay.
Alors, dis-nous, Marie-Christine, si le retour est trop fort, tu nous fais signe hein, dans tes oreilles?
Non, ça va très
ça
bien.
Ça va. Alors, Marie-Christine, tu nous viens d'où?
Alors, je viens de Sainte-Luce.
Sainte-Luce.
Précisément.
Mm-hmm. J'ai beaucoup de parents à Sainte-Luce. Hein. C'est une belle petite commune qui est un peu loin de Basse-Pointe, hein, mais qui est quand même une belle petite commune. Alors, la route a été longue pour toi, je suppose?
Oui, ça a été, mais sinon, nous sommes bien arrivés. Je remercie le Seigneur.
Mais tu ne viens pas souvent dans le Nord-Atlantique? Tu n'es pas tellement nordiste?
Non, non, pas souvent.
Et quand tu viens, et si tu vois, à Sainte-Luce, c'est la plage. Nous, c'est la verdure, c'est la montagne. Quel effet ça te fait? Est-ce que tu respires mieux? Est-ce que...
Je respire mieux, parce que j'aime beaucoup la nature.
D'accord, mais bienvenue donc dans le Nord-Atlantique, hein, en tout cas, hein, que Dieu te bénisse. Alors, tu vas nous parler un peu de toi ce matin, de ton parcours avec Dieu, des épreuves que tu as eues. Ça peut encourager, n'est-ce pas, ceux qui nous écoutent et qui peut-être qui passent par les mêmes problèmes que tu as connus dans ta vie, puisque tu as connu le Christ. Oui. Tu n'es pas née, tu es née chrétienne?
Non, je ne suis pas née chrétienne.
Donc, il y a tout un cheminement. On va commencer par le commencement.
Oui.
Est-ce que tu as été élevée dans une famille nombreuse, par exemple?
Alors, j'ai été élevée d'une famille de 5 enfants. Deux filles et 3 garçons.
Et c'était comment dans le temps?
Dans le temps, mon père était très sévère. On ne sortait pas facilement.
D'accord. Sinon, il y avait une cravache là que vous attendez. Vous allez à l'école, il y avait une heure pour entrer.
Oui, c'était très strict.
Et ta maman, elle était comment?
Ma mère était une femme qui ne parlait pas beaucoup.
Elle était soumise, écrasée, quoi.
Elle était très soumise.
Il n'y avait pas quand même de violence conjugale à la maison?
Oui, il y a eu beaucoup de violence conjugale. Mon père la battait énormément.
Mm-hmm.
Et elle supportait.
Elle ne disait rien?
Elle ne disait rien. Elle acceptait. Et moi qui étais, j'étais petite, mais je lui demandais souvent, « Maman, comment peux-tu accepter cela ?» Et elle me disait souvent que « M'emmailler, c'est pour le pire et le meilleur. »
C'est pour le pire venait avant, quoi.
Oui, elle disait toujours ça, le pire et le meilleur. Elle ne mettait jamais le meilleur avant, elle mettait toujours le pire, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison.
D'accord, et ton papa, est-ce que ça t'est arrivé de dire un petit mot à ton papa? Est-ce que tu étais proche de lui?
Non, je n'étais pas très proche de mon père, j'étais plus proche de ma mère.
Mm-hmm.
Parce que c'était un homme très, très, très violent, je veux dire même méchant.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un dans les enfants qui était proche de lui, qui était son petit confident?
Non, pas du tout. Aucun enfant n'était...
Il était dur avec tout le monde?
Il était très, très dur.
Donc, il tapait maman, mais est-ce qu'il tapait les enfants?
Oui, il a tapé ceux qui étaient avant moi. Moi, comme je suis la dernière, j'ai pas eu...
Mais on dit que les derniers sont toujours très gâtés, très choyés, etc. Est-ce que c'était le cas pour toi?
Par ma mère, oui.
Hein?
Par ma mère.
Pas par ton père?
Mon père aussi, un peu. Mais plus par ma mère.
D'accord. Et ça se passait comment à l'école pour toi? Est-ce que tu étais une bonne élève?
Oui, ça a été très bien. Au niveau de ma conduite, ça s'est bien passé. Au niveau scolarité aussi, je suis arrivée jusqu'à la classe de seconde, en fait.
Est-ce que dans ce temps-là, tes parents est-ce qu'il y avait déjà des chrétiens? La chrétienté était déjà en vogue à Sainte-Luce? Est-ce que déjà les chrétiens étaient déjà aussi une religion émergente?
Non, non, non. Ma mère était catholique. Mon père aussi, il allait à l'église chaque matin parce qu'il travaillait à la marine. Et avant de rentrer, de prendre son travail, il allait à la cathédrale prier. Mais ma mère aussi, ma mère était une femme très, très croyante. Ce qui m'a touchée, c'est que souvent, je sortais avec ma mère. Ma mère était femme de ménage et je l'accompagnais. Et elle tombait sur des gens qui ne la payaient pas. Elle travaillait énormément et à la fin du mois, elle n'était pas payée.
Mm-hmm.
Et une phrase qu'elle me disait toujours, « Yish-moi ça pas rien, parce que récompense-moi sans les haïer. » Et souvent, je pense à cette phrase qu'elle me disait. Mm-hmm. Et je dis, « Seigneur, c'est vrai. Là, on n'a pas de récompense ici-bas. Notre récompense, c'est là-haut. » Et moi, petite, je disais, « Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle travaille et on ne lui paye pas. » Ça, je ne comprenais pas. Et c'est quand j'ai connu Christ que le Seigneur m'a montré que la récompense se trouve là-haut.
Mais ton père était violent, ta mère travaillait pour rien, et donc quelque part, vous aviez tout ce qu'il faut pour aller à l'école. Est-ce que vous avez...
Mon père étant, il était violent, mais quand même, il assurait quand même sa responsabilité. Mm-hmm. Il assurait sa responsabilité, il donnait pas d'argent, hein, mais il mettait tout ce qu'il fallait à la maison.
Donc, vous aviez tous vos beaux vêtements à la rentrée, comme c'est de coutume en Martinique.
Oui,
hein,
oui,
on était tous bien, bien neufs, etc. Quoi.
Oui, il s'occupait quand même, il s'occupait de son foyer.
Et en grandissant, donc, pas la majorité, juste l'adolescence, ça s'est passé comment? Est-ce que tu commençais déjà à te révolter un peu en voyant tout cela?
Je suis là pour dire la vérité.
Hein. Ah, oui.
Je suis là pour dire la vérité. C'est vrai. Qu'à un certain âge, par rapport à la sévérité de mon père, je me suis dit, il faut que je laisse cette maison.
Tu penses à fuguer?
Pas fuguer, mais partir assez rapidement.
Mm-hmm.
Et j'ai pu rencontrer mon époux à l'âge de 18 ans.
18 ans?
Oui.
C'était tôt pour, dans ce temps-là ou c'était normal?
C'était?
Tôt ou normal dans ce temps-là, à cette époque-là? D'avoir un copain à 18 ans?
C'était très tôt quand même. Hein.
C'était très tôt. Et les parents ont dit oui, ont dit gloire à Dieu, ont dit bravo.
Alors, ils n'ont pas su ça tout de suite parce qu'on s'est connus chez ma sœur qui avait une épicerie. Comme mon époux travaillait dans un anti-glace, en fait, il livrait des glaces.
Mm-hmm.
Et j'ai connu mon époux là, dans cette épicerie.
C'était un coup de foudre ou bien c'était un truc comme plusieurs fois tu l'as vu, réflexion, calcul, ou bien c'était bloc d'eau, c'était un coup de foudre?
C'était, non, je ne vais pas dire que c'est un coup de foudre, parce que lui-même, quand il ne me voyait pas, il demandait pour moi à ma sœur, et moi-même, je lui demandais à ma sœur toujours, est-ce qu'il y était passé?
Oui.
Mais ce n'était pas un coup de foudre, non.
Si, je ne calcule pas très bien, mais ça remonte à combien d'années, ça?
Alors, ça remonte à... ça fait près de... plus de 30 ans, quand même.
Hein? Plus de 30 ans.
Plus de 30 ans, parce que j'ai 30 ans de mariage, mais on s'est connus bien avant.
D'accord. Donc, 18 ans, donc, tu le rencontres. Hein?
On se marie à 19 ans.
À 19 ans?
Oui.
Aussi rapidement?
Ah oui.
Et qu'est-ce qui a motivé ce mariage? Est-ce que c'est parce que tu disais que tu voulais quitter chez tes parents?
Je crois qu'il y a eu l'amour, mais il y a eu aussi cette envie de laisser ce foyer,
mm-hmm.
de laisser chez mes parents.
Ah ouais. Donc il y a eu l'amour, mais il y a eu comme ça.
Il y a eu aussi cette pensée. Je ne vais pas mentir, je suis là, je le redis, je suis là pour dire la vérité.
Oui. Mais avec le recul, est-ce que un moment t'as pas dit que c'était un peu trop tôt finalement?
Oui. Parce que je vais dire pourquoi, vivant chez mon père, un père qui ne nous laissait pas sortir du tout, quand j'ai rencontré cet homme, mon époux, je me suis dit, en me mariant, je pourrais sortir et connaître tout ce qu'il y a, tout ce que je n'ai pas connu, en fait.
Mmh. D'accord. Zouk, boîte de nuit, carnaval, machin comme ça?
Tout, oui.
Ouais. Et tes parents ne te laissaient pas aller zouker?
Non, chez mes parents, c'était surtout mon père. On ne devait pas sortir du tout.
D'accord, ok. Donc, tu as connu ton mari et puis vous avez commencé à sortir avec leur permission.
On a commencé à sortir, mais quand il est venu se présenter à mes parents, et mon père lui a bien dit que chez lui, il n'y a pas de rigolade, que c'était sérieux. S'il sortait avec moi, c'était moi et il ne fallait pas me promener partout, en fait.
Dans ce temps-là, est-ce que c'est les parents du futur époux qui viennent demander la main ou bien ça se passait comment? Est-ce qu'il y avait une dot? Est-ce qu'il y avait des marchés comme ça? Est-ce qu'il y avait une négociation entre les beaux-parents?
Non, il n'y a pas eu de négociation.
C'est le mari lui-même qui va
qui avait le mari qui venait, oui, demander la main.
D'accord. Et ta maman a dit quoi?
Alors, ma mère était d'accord. Mon père aussi. Mm-hmm. Mon père était d'accord. Mais il y avait bien des choses à ne pas dépasser. Des normes à ne pas dépasser.
D'accord. Quand vous êtes mariés, au début, ça a été lu, ça a été intéressant, ça a été beau le départ. Il y a eu des complications tout de suite.
Non. Alors, quand nous sommes mariés au début, c'était beau parce que ce que je n'ai pas connu chez mes parents, j'ai pu le découvrir avec mon époux. On sortait, on allait partout. On allait zouker, on allait au cinéma, on sortait énormément.
Mm-hmm. D'accord. Vous alliez danser, etc. Vous avez eu des enfants tout de suite?
Oui, on a eu quand même mon fils, le premier, l'aîné, en fait, tout de suite.
D'accord. Est-ce qu'il y a un moment dans le foyer où ça a commencé à aller mal?
Alors, sinon, Je suis descendue, comme j'étais en stage, j'ai travaillé dans le domaine de l'esthétique, plus précisément la coiffure. Mais je suis restée en stage à Fort-de-France, à Cluny. Et ma mère habitant à Plateau-Fofo, je restais souvent là. Et mon mari, lui, il restait à Sainte-Luce, là où nous sommes, là où nous résidons.
Oui.
Et moi, j'étais chez ma mère.
Donc, il y avait une grosse séparation entre vous.
Il y avait une grosse séparation.
Pour un jeune couple.
Pour un jeune couple.
Oui.
Parce que je vais ajouter qu'on n'a pas connu vraiment de moments ensemble, hein. Après notre mariage, on est peut-être resté peut-être 1 à 2 mois, et après je suis descendue chez ma mère, et je restais souvent chez ma mère et lui il montait, on était séparés.
Oui, mais est-ce que tu as bien supporté ça? Est-ce que lui était d'accord pleinement pour ça?
Alors lui, il était d'accord, mais à un moment il ne pouvait plus supporter. Au début, ça a été, mais après, à un certain moment, il ne pouvait pas supporter.
Ce qui est un peu normal.
Oui, c'est normal.
Et pour toi, est-ce que tu supportais ça correctement? Bien?
Oui, ça ne me gênait pas du tout. Ça ne me gênait pas.
Donc, est-ce que cette situation de séparation, par la force des choses, a engendré des problèmes dans votre...
Oui, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes.
On commence par lequel?
Alors, je vais dire qu'à un moment, mon mari ne supportant pas cette situation, il m'a appelé pour avoir un rendez-vous, qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse parler et tout, mettre en règle.
Une réunion au sommet.
Comment?
Une réunion au sommet.
Voilà. Alors, il m'a dit qu'il voulait me voir le soir. Alors, je lui ai dit, écoute, je suis invitée à une évangélisation. Si tu veux, accompagne-moi. Et après, on discutera.
Alors, attends, tu parles déjà d'évangélisation. C'est-à-dire que tu dis bien que tu n'étais pas encore chrétienne, donc on t'avait invité.
C'est une cousine à moi qui m'a invité.
Et tu comptais y aller?
Ah, oui, j'étais décidée, je voulais y aller.
D'accord.
Alors je lui ai dit que je ne pourrais pas lui parler ce soir. S'il veut, il m'accompagne et après, on discutera.
Il t'a accompagné?
Oui, il m'a accompagné.
Est-ce que c'est un homme patient? Dis la vérité, est-ce que c'est parce que nous peut-être lacunes. Est-ce que c'est un homme patient qui t'accompagnait, qui était prêt à discuter?
Oui.
Du moins dans ce temps-là.
Oui, il était très patient. Il était très patient. Finalement, c'est vrai que au départ, quand je lui ai parlé de d'évangélisation, il m'a dit. Ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse discuter, puis qu'il puisse savoir là où il était, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse.
Ouais.
Et à force d'insister, il m'a dit, d'accord, je t'accompagne. Et quand nous sommes arrivés, c'était au Lamantin. Il y avait, je ne me souviens plus du nom du pasteur qui était là. Il y avait beaucoup de monde. Alors, ma cousine m'a accompagnée et elle m'a accompagnée à une place. Et lui, je lui ai dit de venir, mais il ne voulait pas me suivre. Il m'a dit, moi, je reste là.
Un peu en retrait,
très en retrait même.
Oui.
Et il y avait tellement de monde que finalement je ne voyais même pas là où il se trouvait.
Ah oui. Vous êtes encore séparés là?
Oui.
Oui. D'accord. Et ça s'est passé comment pour toi ce jour-là? C'était évangélisation, donc il y a eu appel, message de repentance, tout ça?
Alors, il y a eu des appels. Il y a eu un appel. Et c'est vrai que je me suis rapprochée, mais en même temps, je me retournais pour voir si je le voyais. Mais c'était impossible parce qu'il y avait trop de monde. Et à un moment, après, il m'a raconté, après, parce que le pasteur a insisté sur quelque chose qu'il avait dans sa vie. Et vraiment, le Seigneur a fait un travail et il se sentait obligé de se rapprocher pour qu'on puisse prier pour lui.
Ah, oui.
Et il est venu parmi la foule, il était là.
Et toi, est-ce que tu es allé, toi?
Et il a...
Toi, est-ce
moi,
que tu es...
Oui. Non, ce jour-là, je n'ai pas été.
Alors, tu l'as invité et c'est lui qui s'approche.
Il s'est rapproché.
Oui. Et il a fait prier pour lui.
Il a prié et tout.
Oui.
Et après, nous avons discuté. Et je suis remontée chez moi.
Le jour même?
Chez moi. Non, dans la semaine.
Non, est-ce que vous avez parlé le jour même de l'évangélisation?
On n'a pas pu parler parce qu'après l'évangélisation, je ne sais pas, mais on n'a pas pu se parler tout de suite.
Oui.
Alors, on a pris un autre rendez-vous et de là, on a parlé, on a dit vraiment ce qu'il y avait entre nous.
En fait, si je comprends bien, spirituellement, il y avait bien un rendez-vous ce jour-là, mais ce n'était pas avec toi.
Ce n'était pas avec moi.
C'était avec Christ.
C'était avec Christ.
Et c'est lui qui, en fait, qui avait le rendez-vous, ce n'était pas toi.
C'était. Voilà.
D'accord. Et quand il a dit oui pour la prière, tout ça, donc vous avez pris notre rendez-vous, est-ce que ce jour-là, tu as vu un changement chez lui?
Oui. Alors, depuis qu'on s'était vu et tout, je suis remontée, j'ai essayé de remonter chez moi assez souvent, en fait.
Oui.
Même si je sortais très tard à mon travail, je remontais quand même. Je lui disais de venir me chercher et on montait.
Oui.
Et un jour, un dimanche, j'étais en train de nettoyer ma véranda. Je le vois habillé tout de blanc. Alors je lui dis, mais je ne comprends pas, où vas-tu? Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur, je vais me faire baptiser. Mais c'est vrai que... J'ai pas accepté cela, c'était très difficile pour moi. Je lui ai dit, mais tu as accepté, tu aurais pu me dire que tu as accepté de te baptiser. Il m'a dit, c'est pas à toi que je dois dire quoi que ce soit, j'ai accepté, aujourd'hui je vais me faire baptiser.
C'est quand même incroyable, hein? Donc c'est toi qui l'invites à l'église et c'est lui qui se fait baptiser même avant toi et c'est toi qui es furieuse.
C'est moi qui suis furieuse.
D'accord. Alors finalement, il est allé se faire baptiser.
Oui, il a été se faire baptiser.
Tu l'as accompagné?
Mais j'étais pas, il m'a rien dit et j'étais pas habillée. Et ce jour-là, il était très pressé. J'aurais pas pu l'accompagner parce qu'il était pressé, il pouvait pas attendre.
Oui.
Et comme moi, j'étais en colère, il a préféré partir assez rapidement pour ne rien entendre. Parce qu'il avait vraiment pris sa décision.
Et parce que quand tu es fâché, tu parles beaucoup.
Oui, quand je suis pas fâché, oui. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup.
D'accord. Et lui, c'était pas le moment, quoi.
Non. Il avait vraiment pris sa décision. Mais quand je le regardais, c'est vrai que je voyais un autre homme devant moi.
Oui.
Il avait vraiment pris la décision.
Mais n'importe quelle femme aurait pu se réjouir de voir que son mari a pris une décision comme ça, parce que tu connais déjà les mariés en Martinique, donc ils aiment courir à droite et à gauche. Donc tu aurais pu être contente, non?
J'étais pas contente, je vais dire pourquoi, parce que je me suis dit, tiens, je me suis mariée, mais ce que je voulais, parce que je savais une fois qu'il avait accepté le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. On n'aurait pas pu faire encore.
Ah oui. Mmh.
Et je me suis dit, tiens, je me suis mariée. C'est vrai que je l'aime, mais je m'étais aussi mariée. Je me suis mariée pour pouvoir sortir, pour voir ce qu'il y avait dans le monde.
Uh-huh.
Et voilà.
Quand il accepte
le Seigneur, voilà. Uh-huh. C'est mon père, mais c'est lui qui a accepté le Seigneur.
Et ça, pour toi, c'était symbole de privation encore.
Ah oui, c'était symbole de privation.
Parce que, Gwenaëlle, tu vois l'image que certaines personnes ont de l'Évangile, déjà?
Hein? Oui, c'est vrai. Bon, c'est une réalité, hein. Il faut pas mentir non plus, hein.
Ouais.
Et c'est une parole de Christ, hein. Lorsqu'on regarde un petit peu dans Jean chapitre 17, hein, le Seigneur dit clairement, et voilà, lorsqu'il s'adresse à son père, hein, et je n'ai perdu aucune de mes brebis, mais je les laisse sur la terre, dans le monde, mais elles ne seront pas aimées à cause de ta parole.
Mmh.
Et le Seigneur dit que elles sont dans le monde, mais elles ne sont pas du monde.
Mmh,
et le Seigneur dit par ailleurs encore, si elles aiment le monde, elles ne sont pas de toi.
Absolument.
Donc c'est certain, je crois que le temps est arrivé où il ne faut pas cacher les choses. Celui qui vient au Seigneur, il faut qu'il dise bye bye au monde.
Mmh.
Son travail, c'est d'évangéliser, c'est de faire connaître le nom du Seigneur. Et voilà, c'est certain, hein, c'est pas la peine de cacher les choses aux gens.
D'accord, faut dire la vérité. Mais dis-moi, mais cette image qu'elle a eue au départ de l'Évangile, cette image d'un Évangile de privation, est-ce que c'est pas quelque part nous-mêmes en tant que chrétiens qui contribuons à véhiculer une telle image qui est négative, hein, parce que le christianisme n'est même pas forcément symbole de privation. On se réjouit, on danse. Moi, je danse tout le temps.
Oui, mais cher pasteur,
oui.
Je dirais simplement que il ne faut pas raisonner d'après, si vous voulez, et notre propre cœur, notre chair.
Oui.
Il y a quelque chose de très précis. Le Seigneur est venu pour vraiment construire un royaume dont nous sommes, je dirais, les disciples. Nous sommes dans le royaume de Dieu.
Mm-hmm.
Et il y a le royaume du monde. Donc, le royaume de Dieu nécessairement est différent du royaume du monde.
Absolument, oui.
Les conceptions de ce monde sont tout à fait différentes de ce que Dieu veut nous faire connaître. Mm-hmm. Donc, il y aura toujours un divorce, un problème entre l'esprit du monde, entre le royaume du monde et le royaume de Dieu. Mm-hmm. Le Seigneur dit dans sa parole, « Je ferai une différence entre mon royaume et le monde. Mm-hmm. » Donc, C'est une vérité, il ne faut pas la cacher.
Absolument.
C'est une vérité.
Merci beaucoup, mon frère. Alors, on revient à notre sœur. Alors, il va se faire baptiser, il revient. Comment se passe maintenant dans le foyer?
Alors, dans le foyer, c'est là que tout a commencé à basculer. Mais... C'est vrai qu'à partir du moment où il acceptait le Seigneur, il a, comme dit le pasteur, il a banni tout ce qui était du monde.
Danser, sortir, ça a fini.
C'est un homme qui buvait beaucoup. C'est un homme qui fumait peut-être 3-4 paquets de cigarettes.
Est-ce qu'il courait les femmes?
Oui, énormément.
Parce qu'il est beau garçon, ton mari, je le connais.
Oui, très beau garçon.
On le salue d'ailleurs, on dit bonjour, on lui dit bonjour.
Oui. Ouais. Mm-hmm. Oui, oui.
Vas-y, continue. Donc.
C'est vrai qu'il fumait énormément et c'est vrai que le Seigneur a travaillé avec lui rapidement parce qu'il a lâché tout cela.
Oui.
Tout cela, il a laissé l'alcool, la cigarette, les femmes. Il a, même avant son baptême, j'ai omis de le dire, avant son baptême, il a été demandé pardon à tous ceux qu'il avait fait du mal, du tort.
Oui.
Alors, c'est vrai que moi-même, je me suis toujours demandé comment il a pu faire cette démarche.
En si peu de temps. Mais explique-moi, toi, de ton côté, comment maintenant tu expliques qu'une femme qui a un mari transformé à ce point, un mari qui ne fume plus, un mari qui ne boit plus, un mari qui ne coupe plus les femmes, comment tu peux expliquer maintenant, avec un peu de recul, comment est-ce que tu n'as pas pu accepter un tel truc?
Parce que moi-même, ce n'est pas ce que je recherchais, en fait.
C'est pas à l'époque.
À l'époque, c'est pas un homme comme ça. Ce que je voulais, c'est sortir, m'amuser. C'est ce qui m'intéressait.
Et ça a commencé à chavirer.
J'avais des je vais pas dire amis, hein, parce que c'est pas ce qu'on appelle amis. J'avais des copines et on sortait, on allait partout. J'ai été victime du jeu, du casino. Et en fréquentant ces lieux, il y a tout ce qui l'entoure, en fait. Et j'ai été aussi une femme adultère.
Oui.
Une femme adultère. J'entrais chez moi très tard. Et quelle que soit l'heure où j'arrivais, parce que j'ai omis de le dire, mon époux a laissé Sainte-Luce, là où on habitait. Il est venu habiter chez mes parents avec moi. Alors, on était ensemble.
Oui.
Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter ces lieux. Et je sortais, j'ai été une femme adultère.
Oui.
Et quelle que soit l'heure où je rentrais, il était toujours là pour m'accueillir. Il n'avait pas changé. Oui. Il me disait comment ça va. Et pourtant, il savait que j'étais adultère parce qu'il a eu l'occasion de me rencontrer avec cet homme.
Oui.
Un jour qu'il avait été récupérer son fils à l'école, il est passé dans un snack chez Élisée. Et en sortant, il m'a rencontré avec cet homme. Et quand je suis arrivée...
Quelle était sa réaction ce jour-là?
Il m'a dit, on s'est salué, il m'a dit bonjour et tout. Et il est parti, il a été faire son chemin. Et le soir, je me suis dit, je pense que ça va mal se passer. Et quand je suis rentrée, c'était le même accueil, ça n'avait pas changé du tout.
Impressionnant quand même.
Très impressionnant.
Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Hein. Parce que même moi, en tant que chrétien, peut-être que j'aurais pris un bon bout de bâton. Parce qu'on a dit qu'on parle franchement, je te dis ça franchement.
Oui, et je redis encore, on est là pour dire la vérité, parce que je suis là pour que ce que le Seigneur a fait pour moi, pour qu'il puisse faire aussi pour les autres.
D'accord, donc il t'a vu avec un amant, t'a vu avec quelqu'un, tu sors tout le temps comme ça, et quand tu rentres le soir, c'est un bon accueil.
Soit il est dans sa Bible ou il est sur son lit, et il me demande même comment ça va, il me parle, comme d'habitude, ça n'avait pas changé.
Mais à ton niveau 3, tu as plutôt un dégoût, tu t'es plutôt écarté de lui, quoi.
Je me suis écarté de lui. Parce que, sans parler, l'ennemi de nos âmes, j'aime pas trop dire son nom, il sait de quoi nous voulons, nous désirons. Oui. Alors, tout ce que je désirais dans mon cœur, il me l'a donné avec cet homme,
oui.
L'homme, cet amant.
Oui.
Et cet homme, effectivement, me chérissait, me donnait tout ce que je voulais.
Tu sortais beaucoup.
Je sortais beaucoup. Mmh. Ce que je désirais dans mon cœur, je l'ai eu. Effectivement, mmh. il me donnait tout ce que je voulais.
Oui. Mmh.
Et mon, il a même voulu me payer le divorce, en fait.
Mmh. Parce que tu voulais un divorce.
Oui, on était mmh. arrivé au divorce. Mmh. Et j'ai commencé à voir l'avocat. Et à chaque fois que cet avocat convoquait mon époux, il laissait un verset biblique. Mmh. à cette femme. Même si elle n'était pas là, il laissait à sa secrétaire. Et un jour, l'avocat me dit, vous savez, Madame Souclay, j'en ai assez avec les paroles que votre mari me laisse, j'en ai assez avec cela, je ne sais pas si je vais continuer l'affaire.
Est-ce que c'était un avocat commis d'office ou bien un avocat que tu payais?
C'est un avocat que cet homme payait
oui.
pour moi.
Mmh. Donc, elle en avait marre avec ça.
Elle avait marre parce qu'elle me dit, c'est des paroles, je ne comprends pas. Et il disait toujours, cette femme, cet avocat qui me répétait, il disait toujours, je sais que je vais récupérer ma femme.
Et ton mari qui disait ça à l'avocat?
Qui disait ça à l'avocat.
Waouh. Il continue?
Et c'est vrai, je me suis... Alors, quand j'entrais comme cela, mais un jour, je suis restée dans ma voiture et je me suis dit, mais... Comment cet homme peut être comme... Je ne comprends pas son comportement, son attitude. Et il y a une femme qui le trompe, sachant que sa femme le trompe, pour qu'il puisse rester comme ça. Je ne comprenais pas.
C'est Dieu.
Et un jour, je me suis dit, je veux connaître ce Dieu qu'il sert. Ce n'est pas possible qu'un homme soit comme ça, sachant que ce que sa femme fait, il est là. Il n'avait pas changé du tout.
Mm-hmm.
Il n'avait pas changé du tout.
Oui. Et là tu décides d'entamer une recherche de Dieu.
Oui. Alors, c'est chaque fois, là où, quel que soit l'endroit où je passais, je trouvais quelqu'un qui me donnait une parole biblique, qui mm-hmm. me disait, le Seigneur t'aime, le Seigneur a besoin de toi. Même mm-hmm. Dans ma vie de débauche, je tombais souvent sur des gens qui me mm-hmm. parlaient de Dieu.
Mm-hmm.
Mais ça ne m'intéressait pas du tout.
Est-ce que finalement tu finis par aller dans une église?
Alors, ce qui m'a interpellée, c'est en vivant cette vie de débauche, mes enfants souffraient.
Oui.
Mon fils, plus précisément, mon fils aîné.
Mm-hmm. D'accord, on fait une pause musicale tout doucement. Donc, c'est le cabine 7.3 MHz. Après, on retrouve notre sœur. Chers auditeurs, je rappelle que vous écoutez bien sûr Radio FM et Soir, sur le Monde FM, sur les 97.3 MHz.
Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour. Au pied de ta croix, après tous mes naufrages.
Voilà, donc alors de retour sur le plateau de Radio Femme Soir. Alors, ton fils, on poursuit, donc ton fils souffre de ça. Et je sais que les mamans sont très proches de leur fils. Alors, je suppose qu'il y avait un lien très fort entre toi et ton fils. Et voir ton fils souffrir à cause de toi, je pense que ça déchire le cœur quelque part.
Oui.
Ça te fait très mal.
Très, très mal, parce que c'est une souffrance aussi que lui-même, il a supportée, parce que ses copains, ses amis lui disaient qu'il me voyait avec quelqu'un d'autre.
Oui.
Et ça le touchait énormément.
Est-ce qu'il était proche de vous deux, de ton mari, de toi?
Il était plus proche, je vais dire, de son père.
Mmh.
Son père, parce qu'il disait, je me souviens, il parlait à ma belle-mère, et il disait souvent à ma belle-mère qu'il n'aurait pas souhaité que ses parents divorcent.
Ah oui.
Parce qu'il était entouré de copains qui de parents divorcés.
Oui.
Et il ne souhaitait pas que ça lui arrive.
Mmh, oui.
Et quand il a réalisé que ça allait lui arriver, ça a été très, très difficile pour lui. il a commencé à boire, à fumer, à...
Il avait quel âge?
Il avait, maintenant il a 30 ans, il devait avoir là, 20 et quelques, 22 ans à peu près.
D'accord. Et je suppose, comme je l'ai dit à l'instant, donc ça te déchirait le cœur.
Ça me déchirait le cœur énormément et ça me... J'ai décidé de me rapprocher un peu de mon époux.
Oui.
De me rapprocher un peu de mon époux. Et une semaine avant que le divorce soit prononcé, quand j'ai regardé l'état de mon fils, j'ai regardé d'abord à cet homme qui était à mes côtés, qui supportait tout, qui n'avait pas changé au point de vue attitude envers moi, qui était toujours le même. Je me suis dit, mais je me posais la question, mais quel Dieu sert-il? Quel Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Parce que son témoignage aussi m'a poussé aussi à chercher Dieu. Ce témoignage m'a poussé parce que quelqu'un qui vous rencontre avec quelqu'un d'autre, qui vient vous chercher dans les casinos très tard, parce que je passais mon temps au casino. Et je vais ajouter aussi pour les gens qui sont dans les jeux, que fréquentant les casinos, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, des personnes âgées qui me disaient, elles voulaient s'en sortir, mais même en faisant des neuvaines, ce qu'on appelle neuvaines, elles ne pouvaient pas s'en sortir. Et c'était très difficile pour eux de s'en sortir. Même si elles n'avaient pas beaucoup d'argent, même si c'était 20 euros, elles venaient jouer les 20 euros. Et en sortant, bien souvent, ces gens-là, soit ils n'avaient pas d'argent pour prendre le bus, soit pas d'argent pour mettre de l'essence dans leur voiture. Et il y a une qui souvent venait près de moi et qui me disait, « Moi, ça fait neuvaine dans les neuvaines, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Qui ça m'en peut faire encore? M'en bousin sortir dans ça. » Alors, je veux vraiment remercier encore mon Dieu parce que chaque jour, la prière de chaque jour, je dis, « Seigneur, ne permets pas que je puisse retourner en arrière, Seigneur. Je veux rester toujours à tes côtés. » Parce que je sais que le jeu, ceux qui m'écoutent, le jeu, c'est quelque chose de diabolique. Diabolique, parce que des choses que je voyais à l'intérieur des casinos, des femmes malheureuses qui demandaient comment s'en sortir, même en étant chez eux très tard, même 20h, 21h, elles voyaient elles voyaient le casino devant eux. Et il fallait absolument qu'elles s'habillent pour pouvoir sortir pour aller jouer.
Oui.
Alors, ce que je dis, c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de diabolique.
D'accord, ok. Donc, mais tu finis par, on va revenir, donc tu finis par aller au culte. Est-ce que c'est avec ton mari?
Alors, j'ai déjà, pour le divorce, une semaine avant, j'ai parlé à mon amant. Et je lui ai dit que je finis avec tout. Je ne peux pas continuer. Non, je termine avec tout. Et il n'a pas compris. Il m'a dit que c'est des trucs, mon mari m'a ensorcelé, tout ça. J'ai dit non, 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 non. Ce Dieu qu'il sert, c'est vraiment un Dieu vivant, un Dieu réel. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir cette attitude en sachant que votre femme vous trompe, votre femme rentre tard, votre femme est partout. Moi, j'ai dit à mon amant que c'est vraiment un Dieu vivant, un homme. Pourtant, je connaissais pas Dieu et je lui ai dit, un homme de lui-même, il ne peut pas accepter ces choses.
Donc, tu étais comme consciente de ce que tu supportais par rapport à toi.
Oui, j'étais très consciente. À un moment, le Seigneur, je dis que le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a montré cet homme que j'avais à mes côtés. Et j'ai décidé d'abandonner cette vie de débauche. D'abord pour mon époux et pour mes enfants.
D'accord, ok.
Et j'ai continué, j'ai commencé à chercher le Seigneur.
Mais le divorce qui était en cours, c'est parce que tu as livré l'avocate, parce que je vous dis une parenthèse, comme j'ai eu l'occasion de recevoir ton mari ici à la radio, il disait, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, il disait un moment, comme toi tu voulais divorcer, et plusieurs fois, comme tu as dit, il laissait des versets à l'avocate, un moment il t'a dit, me semble bien, je ne me souviens pas très bien, il a dit, ma chérie, eh ben, on y va, on va divorcer, on y va. Un moment, comme si lui-même, il voulait te rendre ta liberté.
Ma liberté, oui, oui. C'est vrai.
Donc, parle-nous un peu de cette parenthèse-là.
Alors, c'est vrai que quand il m'a dit qu'il était prêt à divorcer, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées, c'est au fur et à mesure que ça me revient, en fait. Je travaillais ce jour-là. Mm-hmm. Et mon pasteur m'a appelé pour avoir un entretien aussi. Il m'a appelé pour avoir un entretien. Au départ, je ne voulais pas. Et je lui ai dit d'accord. Mais quand j'ai répondu oui, quand j'ai raccroché, j'ai dit que je n'irai pas. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis que je puisse finir. Il n'y avait personne. Mm-hmm. Il n'y avait personne. Alors, j'ai fini tôt et j'ai dit, bon, j'y vais. Je suis allée. Et quand mon pasteur m'a parlé, le pasteur Yves Guanel m'a parlé, il m'a montré, il m'a dit des choses. Sur le coup, j'étais un petit peu énervée. Hein? Mm-hmm. Il m'a dit que cette beauté que j'ai, c'est quelque chose d'éphémère. Que cet homme que le Seigneur a mis à mes côtés, c'est pas n'importe quel homme. Le Seigneur l'a utilisé pour pouvoir ouvrir mes yeux, pour vraiment voir l'homme qu'il avait mis à mes côtés. Mm-hmm. Et c'est de là que j'ai pris la décision de vraiment de suivre. Et j'ai parlé à mon époux, justement. Il m'a dit, bon, cette fois-ci, je te pardonne. Mais il m'a toujours dit, si je recommence, sachant que je connais le Seigneur, il ne me pardonnera jamais. D'accord. Enfin, pas pardonner jamais, mais il ne va pas accepter cela, parce que lui, il pardonne. Oui. Mais il ne va pas accepter que je puisse refaire ces mêmes fautes.
Ce qui est un peu normal.
Oui, ce qui est normal. Oui.
Alors finalement, tu dis oui à Christ, le divorce a été annulé, tu dis oui à Christ. Oui. Comment ça se passe après? Est-ce que l'ex te rappelle? Est-ce que tes enfants sont ravis, sont contents?
Alors, tout de suite, j'ai vu qu'au niveau de mon foyer, ça avait changé. Ça avait changé, mes enfants étaient mieux. Et même au niveau scolaire, parce que mon fils avait des problèmes. Parce que quand on a cette vie-là, ça agit sur tout, hein. Surtout, hein, sur nos enfants, sur leur vie, surtout. Et j'ai vu que tout se rétablissait petit à petit.
Est-ce que ça a été facile de recommencer à vivre une vie conjugale normale?
Ça n'a pas été facile.
Parce que tu sortais de loin, là.
Je sortais de très, très loin. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Parce que j'étais une femme aussi qui fumait. Je fumais énormément. Pour la cigarette, c'est vrai que je me souviens un jour, j'avais déjà accepté Christ. Et mon mari, étant absent, je me sentais seule. J'ai essayé de reprendre la cigarette. Quand j'ai fumé la première cigarette, je peux vous dire que le goût que ça me mettait dans la bouche, je n'ai pas pu continuer et j'ai jeté le paquet. Et depuis, j'ai pu fumer. Et j'essayais toujours... J'étais toujours à côté, je demandais toujours quand même conseil à mon pasteur, je lui parlais souvent. Et même au niveau des livres, il me disait, au niveau des livres, il vaut mieux lire ma Bible, ne pas prendre trop de livres, mais vraiment être dans ma Bible, souvent essayer de méditer. Et c'est en faisant tout cela que j'ai pu, à ce jour, accepter le Seigneur.
D'accord, on se retourne vers Pasteur Guanel, puisqu'il s'agit de lui. Parce que est-ce que lorsque cette sœur arrive chez toi, tu es déjà au courant de la vie qu'elle a menée? Tu es au courant qu'elle a un mari qui est persévérant? Jusqu'à maintenant, il est à Christ. Est-ce que c'est compliqué de conseiller une femme comme ça? Une femme qui mène cette vie-là, et c'est entre les deux. Comment est-ce qu'on fait quand on est pasteur?
Oui, j'avoue que je ne connaissais pas la vie privée. Hein.
Ah non, tu n'étais pas au courant de la vie qu'elle menait?
Non, je n'étais pas tellement au courant. Mais la seule chose que je sais, c'était mon compagnon d'œuvre.
Et comme son mari?
Oui, son mari. Son mari était mon compagnon d'œuvre. C'est-à-dire que comme je suis apôtre, j'étais amené à voyager souvent. Il était toujours à côté de moi. Et souvent, on dormait l'un à côté de l'autre. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à dormir avec lui tellement il était agité. Je voyais la souffrance, toute la souffrance dans son corps. Oh! Et je me souviens une fois qu'on était à Sainte-Lucie, il m'a dit, Pasteur Guanel, j'ai besoin de téléphoner à mon épouse. Et ça ne passait pas bien, on a été chercher un coin où... dans les hauteurs pour que ça puisse passer. Donc, je voyais un peu cet homme-là, vraiment comment il aimait son épouse. Et je dirais que, bon, lorsque j'ai beaucoup prié pour lui, j'ai beaucoup prié pour, pour Marie-Christine. Bon, c'est vrai, je ne peux pas facilement répondre à cette question parce que je travaille beaucoup avec le Saint-Esprit.
Oui. Mmh.
Vous voyez? Et lorsque le Seigneur m'envoie quelqu'un, je dirais que ce n'est pas, je ne suis qu'un instrument. Mmh. Et lui, le Seigneur, c'est lui qui prend le relais.
Oui.
Vous voyez?
Oui.
Donc, j'ai fait tout ce travail avec elle. Mais attention, hein. Mm. Et à un moment donné, elle m'a haï. Hein?
Ouais, ah bon?
Ah oui, elle ne pouvait pas me
supporter. Oui.
Ah non, elle ne pouvait pas me supporter. Mais je le savais.
Oui.
Ok, parce que je n'ai jamais. C'est une belle femme.
Oui.
Je n'ai jamais regardé à sa beauté. J'ai vu surtout ce qui était en elle.
Tu le lui as dit d'ailleurs?
Certainement.
Tu lui as dit que cette beauté. Non, mais
oui.
Elle a dit à l'instant. Elle a
oui,
dit à
oui,
l'instant
elle tu... l'a... oui, mais oui. J'oublie. Hein? Mais oui. Parce que j'ai tellement. Oui. De gens qui passent.
Oui.
Donc, je le lui ai dit, oui. Parce que je ne mets pas tellement d'eau dans ma bouche. Et si jamais tu trouves une formation de diplomate, fais-moi savoir. Peut-être que je ne sais pas si je peux encore être rattrapable, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Okay?
D'accord. Et ben, comme tu n'as pas beaucoup de temps, je peux te poser une question. Je ne sais pas si je dois aller dans ce domaine-là, mais en écoutant parler d'une autre sœur, je me suis rendu compte de deux types d'amour, en fait, qui se manifestaient entre ce couple-là. On parle d'amour agapé, mais j'ai vu l'amour éros, parce que c'est ça que le frère Souklaï, c'est un homme qui aime Dieu. Bon, pour ceux qui le connaissent, ils savent de quoi je parle.
Oui.
Mais j'ai vu aussi, par rapport à ce qu'elle dit, elle me dira si je me trompe, toi aussi,
oui.
Qu'il y avait l'amour éros. C'est-à-dire que il aimait sa femme, simplement. C'est-à-dire qu'il y avait un amour profond pour Dieu, certainement,
oui.
Mais il aimait la personne de sa femme. Est-ce que je me trompe? Parce qu'il y a des couples où les gens aiment beaucoup Dieu dans le couple, mais ils n'aiment pas leur femme. Ils n'aiment pas leur mari.
C'est vrai.
Mm-hmm.
Bon, je dirais que c'est un homme qui avait la grâce de Dieu sur lui.
Mm-hmm.
Parce que bon, c'est enregistré, c'est vrai. Mais personnellement, en tant qu'homme, il faudrait peut-être que je sois unique. Mais je n'aurais pas pu supporter une telle situation. Je demande au Seigneur pardon, puisque, tu vois...
Mais il faut parler
non,
franc.
Non, il faut parler franc,
oui.
Et ce serait impossible pour
oui.
moi. Donc, pour moi, je dis que c'est un homme spécial.
Oui.
Un homme spécial.
Oui.
Donc, Dieu a un plan pour lui.
Non, c'était vraiment particulier, c'est singulier pour lui, c'est comme ça.
Oui.
Un homme,
non,
même s'il il aime Dieu, il n'aura pas pu supporter une
non,
chose pareille.
Non.
Ta femme
j'aime
qui
Dieu.
Hein?
J'aime Dieu. Amen. Mais il est certain que je ne supporterai pas ça. Et ma femme le sait aussi.
Absolument.
Amen.
Merci
Amen.
Pour la franchise. Donc, ma soeur, donc, je disais, parce qu'on est là, tu vas nous donner ta version, qu'on sentait non seulement l'amour éros, dans, l'amour agapé chez ton mari, l'amour de Dieu, il aime Dieu, mais vraiment qu'il avait un attachement profond pour ta personne.
Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Mm-hmm.
Je peux ajouter...
Oui, vas-y.
Je crois que peut-être que la sœur, on ne le sait pas ou elle le sait, comme c'est un ami aussi. Je dirais que il n'avait pas envie de recommencer une vie avec une autre femme.
Mm.
Il préférait encore garder sa femme.
Mm.
Et je crois que c'est important ça, je dirais, et cette attitude. Non, mais ça vient de Dieu. C'est pas possible
oui.
qu'un homme puisse être comme ça.
C'est pas possible. D'accord, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Ooh.
voudrais vraiment encourager notre sœur parce que je sais que c'est pas évident de parler de soi-même quand on a vécu cette vie-là. C'est pas évident parce que nous sommes des êtres humains. On veut véhiculer une image de nous qui peut-être n'est pas la bonne. Mais je crois que dans certains cas, vaut mieux dire la vérité comme tu l'as fait ce matin. Tu n'as pas eu honte de te dire ce qui s'est passé parce que Gwenaëlle peut en témoigner. Donc je crois qu'il faut t'encourager parce que ton témoignage peut toucher quelqu'un, moi ça m'a touché, peut amener quelqu'un à certaines responsabilités. Parce que souvent, je crois qu'on peut faire du tort aux autres et ne pas se rendre compte, mais là, nous sommes là ce matin pour faire du bien aux autres. Pasteur Gwenaëlle, un petit mot.
Oui. Bon, je dirais que je remercie Dieu d'avoir cette femme, d'entendre cette femme et à la radio ce matin. Parce que nous ne travaillons pas pour nous. Elle aurait pu garder ses affaires pour elle. Parce que c'est une belle femme, en plus. C'est la femme d'un pasteur. C'est pas n'importe qui. C'est la femme, je dirais, si quelque chose m'arrive, c'est son mari qui va continuer le travail. Donc, elle a une grande responsabilité. Donc, elle aurait pu garder cette image, une belle image d'elle. Mais elle est venue surtout pour parler aux gens qui souffrent, pour parler aux gens peut-être qui sont vraiment enchaînés dans les problèmes de la chair. Tu parlais tout à l'heure de amour eros et tout. Bon, il y a des femmes qui ne voient que le sexe. Oui. Alléluia. Leur profit, mais elle a réalisé tout le dégât qui a été causé à cause de cette situation. Et des fois, combien de temps que l'on met pour pouvoir réparer? Parce que l'autre ne veut pas nous lâcher. Donc, je dis que moi, je suis rempli de compassion, d'amour et de fierté pour une femme qui s'en est sortie de cette roue, je dirais, infernale. Et que Dieu la bénisse. Et je voudrais, par ailleurs, puisque son mari aura l'occasion d'écouter ce témoignage, de lui dire vraiment qu'il est un homme exceptionnel, de ne jamais lâcher la main de Dieu et de persévérer parce que Dieu a un plan pour toute la famille.
D'accord, merci beaucoup, Pasteur Gwenaëlle. Merci beaucoup à notre sœur. Merci beaucoup, ma sœur. Et on écoute tout de suite ceci.
Tu me dis